Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
J'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle conférence. Ça fait pas mal de temps qu'on n'en avait plus fait. La période n'a pas aidé, entre les démotivations, les soucis de santé, d'autres problèmes et contretemps. Nous voilà de retour et on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Antonio Mosca. Donc Antonio, il a étudié la logique, l'épistémologie, en Italie, à l'université, puis aussi à Paris. Et je le connais à la base parce qu'il est administrateur, il est dans l'équipe de modérateurs du groupe Zététique depuis pas mal d'années. C'est un peu là qu'on s'est connus. Et voilà, donc du coup, j'ai trouvé intéressant de l'inviter pour qu'il vienne nous parler un petit peu de ces disciplines qu'il connaît. D'autant plus qu'il y a parfois des débats récemment dans le mouvement sceptique autour des questions qu'on va aborder ici. Voilà, du coup Antonio, je te passe la parole et je te laisse te présenter un petit peu pour les auditeurs et puis entamer ta présentation.
D'accord, merci Jérémy et voilà, donc en espérant que... j'ai préparé un petit PowerPoint que vous devriez déjà voir. Donc je m'excuse d'avance parce qu'on va pas le voir en diaporama parce que sinon voilà il y avait un bug mais qu'on a repéré à temps. Donc Jérémy a déjà dit l'essentiel. On s'est connu dans la team de modération du groupe Zététique. Et du coup, c'est pas sans rapport avec le choix que nous avons fait du sujet de cette rencontre. Parce que comment traiter de façon Z les discours? Bah, du coup, quand on modère le groupe, il se trouve que modérer un groupe Facebook, ça se traduit en des actions de modération des discours. Voilà, les interactions qu'on a sont des interactions discursives. Et donc, qu'on le veuille ou non, on va se poser des problèmes aussi sur comment juger les discours, etc. etc. Bon. Et comme Jérémy l'a dit, cet aspect, disons, de l'analyse langagière, linguistique, etc., des énoncés, c'est devenu d'autant plus important que le débat dans la sphère Z francophone, qui est quand même un débat assez limité, bien sûr, en Italie, je suis italien, en Italie on n'a pas du tout ce débat, mais c'est un débat qui, dans la sphère francophone, dernièrement, est devenu très très important. Plus en général, on discute depuis un petit moment sur le statut des sciences humaines, voilà. Mais le problème de la linguistique, de l'analyse linguistique, joue un rôle central dans ce débat. J'enseigne la culture scientifique aux étudiants de lettres à la Sorbonne Nouvelle, au département de sciences du langage, de linguistique. Du coup, on s'était et voilà, c'est Je me suis longuement interrogé sur comment faire le pont entre les sciences humaines et les sciences exactes avec un auditoire de ce type. Et en effet, le point d'attaque mon point d'attaque est justement d'introduire les étudiants de lettres à la méthodologie scientifique et d'une certaine façon donc aussi la méthodologie Z par le biais de la méthodologie de la linguistique et plus en général ce dont on parlera aujourd'hui donc de la méthodologie de la philo en philologie philologique. Or, ce débat très 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 délicat que nous avons dans la sphère Z dont je parlais tout à l'heure, et c'est récemment assez bon, c'est polarisé. Parfois, il est devenu assez musclé, même assez avec des pics d'agressivité de tous les côtés, comme dans tout débat et comme dans toute polarisation. Les réseaux sociaux contribuent, voilà, de par leur fonctionnement, hélas. Donc, malgré la volonté des sujets particuliers. Or, justement, linguistique et logique, c'est très intéressant parce qu'en effet, bon, grosso modo, de façon très grossière, on voit presque deux positions qui se font face aussi sur le statut fondamental qu'on va donner à bah, notamment l'analyse logique en termes de biais logique et une analyse des discours et donc des dialogues, des entretiens, etc., qui ne donnerait pas la priorité au côté logique, mais plutôt à la complexité des discours et du langage. Cela, donc là, par exemple, là, ça a été vraiment mis en avant dans un des derniers Skeptics in the Pub à Paris, où il y a eu l'intervention de Dr. Baratin et oh là là, Dr. Baratin et qui était avec lui, je ne sais plus.
C'était Charlotte de l'homme
Charlotte,
de Chartres.
voilà, exactement. Voilà. Docteur Baratin, donc Gabriel Palares, c'est ça. Et voilà, donc là, et Charlotte et Gabriel ont mis en avant l'importance de s'approprier en zététique une analyse fine des discours qui prendrait en compte donc des outils. Les outils fondamentaux qu'utilisent les sciences humaines pour analyser les discours, les discours traitant éventuellement de problématiques scientifiques aussi, mais qui restent des discours, donc des outils linguistiques. Donc il y a donc cette opposition, on pourrait donc la voir aussi. Même si c'est pas toujours explicite, comme une opposition entre guillemets, entre une approche entre guillemets logiciste, une approche entre guillemets linguistique. Or, personnellement, bon, j'ai une formation de logicien, j'ai fait pas mal de linguistique, donc j'aimerais problématiser cette opposition, mais en effet, c'est une opposition qui est réelle, mais j'aimerais bien voir cette opposition de façon, voilà, sous un autre point d'attaque. Voilà. Donc, essayons de mettre un peu dos à dos cette opposition. Parce que, bon, d'une certaine façon, peut-être qu'on peut trouver un point commun méthodologique et on peut faire un peu d'autocritique méthodologique des deux côtés. Voilà. Donc, or, et l'autre chose qui ressortait aussi de cette rencontre avec Charlotte et Gabriel, c'était aussi une certaine opposition apparente entre une approche, entre guillemets, scientiste, entre guillemets, scientiste. Parce que, donc, notamment l'approche qui donne la priorité à l'analyse en termes de biais logique, une approche scientiste, toujours entre guillemets, qui ne comprendrait pas la spécificité des sciences humaines et qui essayerait d'appliquer aux sciences humaines une méthodologie, donc celle notamment des méta-analyses, etc., etc., que les êtres connaissent très bien quand il s'agit de problématiques de chimie, sciences du vivant, santé, etc. Donc d'essayer d'appliquer ça aux sciences humaines, alors que les sciences humaines se fondent sur une méthodologie complètement différente. Or, voilà, donc c'est de là que j'aurais envie de partir, parce que bon, ça me concerne personnellement. Donc, en fait, si on est Z, on est Z. Donc, si on a une chose qu'on pourrait appeler approche Z, rigoureusement sceptique, rationnelle, critique, etc., bah, elle devrait s'appliquer un peu à tout. Voilà. Ou sinon, on va dire, bah, on va être Z dans un domaine, dans les sciences humaines, et pas dans les sciences exactes, ou inversement. Donc ça, c'est voilà, c'est une remarque générale. Et moi, j'ai pas, voilà, moi, j'ai pas l'impression d'être différemment Z quand je traite des problématiques qui touchent aux sciences humaines ou quand je parle de sciences exactes. Mais plus concrètement, bah, il se trouve que personnellement, dans mes cours, pour expliquer pour mes étudiants donc littéraires, qui par ailleurs sont des futurs professeurs des écoles, donc c'est un cours qui est vraiment destiné aux futurs professeurs des écoles, qui ont une formation de littéraire, mais qui sont censés devoir apprendre un peu de culture générale scientifique, et qui sont censés aussi devoir enseigner un peu de notions scientifiques lorsqu'ils seront en poste, bah, il se trouve que moi, l'approche que j'ai est d'introduire à la méthode scientifique en partant justement des fondements de la méthode des sciences humaines. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on a appelé donc la philologie. La philologie qui, en effet, est à mi-chemin entre la linguistique et la logique, en effet. Or, la philologie, bon, qu'est-ce que la philologie? J'ai beaucoup hésité sur les exemples à prendre pour commencer. Bah, pour prendre, pour, alors, j'ai décidé de prendre la philologie et la science des documents, des sources. Donc c'est éminemment zététique, et voilà, de tout ce qui transmet des informations. Bah, alors j'ai pris comme exemple un document qui m'a vraiment frappé parce qu'il a été au centre d'une petite querelle. Donc là je vais prendre deux documents vraiment très récents qui donc le deuxième, c'est une querelle qui, c'est pas une querelle du petit monde Z, c'est une querelle qui est internationale. Et le premier exemple, par contre, c'est un petit cas de figure de modération de groupe Z qui a été très bien traité par les modérateurs en question. Donc c'est pas le groupe zététique, c'est Z au café. Alors très intéressant, le cas de Z au café est très intéressant parce que c'est une situation où les êtres sont tranquilles, voilà, il y a de l'humour, où on se défoule aussi pour dire oh là là, voilà, je suis fatigué, etc., etc. Donc c'est une situation très 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 de liberté de discours. Donc on va parler de tout et de n'importe quoi, etc. Par contre, on est toujours entre êtres. Et surtout, on a des êtres qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, etc., mais sans les règles très strictes de la modération du groupe principal. Donc, il y a un travail de modération. Je ne suis pas modérateur sur le café, mais voilà. Donc, c'est très compliqué. D'ailleurs, ça se. Donc, vraiment chapeau. Or, warning, le document en question est un document. Le document, attention, le document, pas la publication qui a été faite. La personne qui a fait la publication est quelqu'un qui était bien conscient du fait que le document était un document, franchement, à prendre avec des pincettes et pas à cautionner. Voilà. Justement, il a publié ça justement pour dénoncer ça. Alors, warning, c'est un document qui met en scène une agression sexuelle. Voilà. Donc, comment? Alors, je vais. Voilà, et c'est le genre de document qui normalement va déclencher un débat très pesette, en fait. Alors, la personne qui a publié ce document, justement, il a bien exprimé. Tiens, je n'avais pas encore eu ce genre de pub Facebook, c'est sympa. Bien évidemment, c'est ironique, la personne se plaint d'avoir ça dans son fil Facebook. Voilà. C'est pas un trait d'humour de sa part. Donc, dans le Café Z, on exprime aussi que parfois on en a marre de certaines choses. Alors là, vous avez peut-être vu passer ce genre de document. Voilà. Alors, comment analyser ça de façon Z? Parce que, en fait, dans le groupe en question, c'est naturel, les membres ont commencé quand même à discuter sur ce document qui est un document. Donc, il s'agit d'une pub racoleuse pour un site qui montre des bandes dessinées érotiques. Donc, on a un pitch d'une petite histoire érotique et bon, il se trouve que la fille veut que le garçon l'aide à faire un travail de tuyauterie et lui dit, attends, laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que? Et après, il faut deviner la suite. Gros débat dans le groupe Z sur donc est-ce que la suite va vraiment être un viol? Pardon, est-ce que la suite va vraiment être la suite qu'on peut envisager, voilà, et qui en effet, la fille, on sait, voilà, est-ce que la fille a donné son consentement d'ailleurs? Est-ce qu'on sait s'ils sont ensemble ou pas? Donc on a commencé sur tout un tas de questions, ça partait un peu dans tous les sens. La modération a fermé ça, donc en disant bon, très bien. On va pas discuter de ça ici. Voilà, vous pouvez continuer la discussion sous la publication d'origine. Très bonne intervention de la modération. Ils ont arrêté la discussion. La publication soit restée parce que bon, l'auteur de la publication avait justement mis en avant le fait qu'il ne cautionnait pas du tout, voire qu'il en avait marre. Mais alors, qu'est-ce qui est critiquable? Alors, par contre, comment est-ce qu'on va juger ce truc? Ce truc est complexe. Voilà, c'est pour ça que ce truc est un document. Et un document, c'est quelque chose qui arrive et en communiquant des choses. Et ça communique avec des messages qui sont codés avec le langage. Donc, c'est pour ça que ça relève. Ça relève en effet de la linguistique, parce qu'on a bon, on a des choses qui sont dites. Par contre, il y a plusieurs langages. Il y a plusieurs langages. Donc, on a un langage visuel. On a un langage visuel, donc qui est très bien codé, donc qu'on va reconnaître, qu'on va interpréter. Ça relève plus de la linguistique, ça relève de la science des langages en général. Donc on va être dans un truc un peu plus général, on va dire la sémiologie ou la sémiotique. Par contre, on va pas ce document-là, c'est quoi? En fait, on reproduit, c'est le témoin d'une scène qui est en train de dessiner ce qu'il a vu se passer sous les yeux, donc c'est censé représenter quelque chose qui est vraiment arrivé. C'est l'œuvre ou c'est l'œuvre, c'est quelque chose d'inventé par l'auteur et inventé par l'auteur dans un but. Quel but? Bon, donc on a toutes ces informations, en effet, pour les reconstruire, il faut aller faire une analyse de type paratextuel, il faut voir comment le document est fait structurée. Et donc, on voit qu'il y a tout mix français qui dit Judy aime certaines qualités cachées de Sean. Oh là là. Donc, on comprend qu'on est dans un genre, un certain genre érotique. On comprend que, voilà, on laisse sous-entendre quelque chose. On est dans un pitch d'un truc racoleur et érotique. Et bon, et bien évidemment qu'il faut avoir des informations extra-linguistiques. Donc, il faut savoir que cela apparaît dans le fil Facebook. Il faut savoir qu'il y a un marché de ça. S'il y a un marché, c'est parce qu'il y a un public pour ça. Et donc, on va pas. Donc, on va au fur et à mesure qu'on a davantage d'informations. Les informations sont données par le contexte, la connaissance que nous avons du contexte, mais bien évidemment aussi par la connaissance des codes. Parce que là, bien évidemment, que ça joue avec des codes sémiologiques qui déjà suffiraient pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc, la fille qui rougit un peu sur la pommette, bah, selon les codes du manga, bah, on comprend déjà qu'il y a une petite excitation. D'ailleurs, tout ce qui est sous-entendu est dit par l'auteur et sous-entendu par l'éditeur, celui qui a. Qui va nous vendre cette chose-là. Parce que Judy aime certaines qualités cachées de Sean. Ah, donc elle ne le connaît pas. Donc en vérité, ils ne se connaissent pas. Donc en vérité, c'est un processus de séduction. Le consensus, ce n'est pas là, hein, ça c'est sûr. Du coup, en vue des autres informations que nous arrivons à tirer par les éléments paratextuels. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la pertinence même de ce genre de document pour le public, hein, parce que eux, ils veulent des histoires entre guillemets de séduction. Donc, on est en train de mettre en scène une scène entre guillemets de séduction, et bon, ça
Ça, je
marche pas
vois.
comme ça. Voilà. Donc, alors, nous avons fait une analyse très complexe. Et en effet, c'est une analyse, c'est ce qu'un historien. C'est ce qu'un historien normalement fait et ferait avec un document d'une autre époque. Voilà. Donc on essaie vraiment de prendre. Il y a toute une stratification de sens qui est donnée justement par les éléments de langage au pluriel, le langage avec un S, de codification des éléments matériels, etc., qu'on va croiser. Et en effet, le sociologue est un peu un historien qui parle de notre époque. Donc oui, mais le travail du sociologue, le travail de l'historien, bah, c'est très complexe. Voilà. Donc là, j'ai l'analyse que j'ai faite, que je viens de faire, elle est très grossière, bien évidemment. Bon, et c'est un peu ça qu'on fait en tant que Z quand on remonte, quand on dit, oh, voilà, quand on remonte, quand on essaye de faire le tri dans l'information, dans l'hygiène mentale, fait ça très bien. Donc son fameux bullshitomètre hein, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on a on a Génération Future qui publie un truc sur le glyphosate. Voilà, donc on va voir si c'est vraiment vrai. Bah, là, on a, bah, là, pareil. Donc il y a eu toute une querelle. Donc les journaux ont parlé du fait que, oh là là, on censure, on veut empêcher, on veut pas montrer, on veut censurer le compte de Blanche-Neige. Bon, en bonzette, on va croiser les sources, on va remonter aux premières sources du problème et on découvre en effet que ce dont il est question là, et là aussi à nouveau quelque chose qui touche à la linguistique et à la philologie. Donc, quelle était en vérité la querelle en question dont vous avez entendu parler, je suppose, bah, en vérité, à la base, elle concernait la critique formulée par deux journalistes américaines, non pas au fait qu'il y ait un baiser comme ça à la fin de Blanche-Neige, si, il y avait aussi une critique de ce type-là, mais aucune envie de censurer ça. Mais ce qu'il critiquait vraiment, c'était le choix de la part de Walt Disney de mettre un titre sous ce baiser, le vrai baiser d'amour. Donc, en effet, ce qui était critiqué là, est-ce que le sens de ce baiser peut se résumer à la phrase le vrai baiser d'amour? Question tout à fait pertinente qui concerne le sens à donner aux choses. Donc on peut d'ailleurs même Perrault à l'époque des contes de Perrault, même l'auteur d'un conte de fées qui montre un prince qui reparle d'un prince qui embrasse comme ça une princesse endormie. Il va pas forcément estimer que c'est le vrai baiser d'amour. C'est un baiser spécial, c'est un baiser qui agit de façon magique, etc. Donc c'est pas, même au 19e siècle, on n'aurait pas forcément défendu le fait que c'est un vrai baiser d'amour. C'est un baiser magique qui agit pour réveiller la fille. Après, il y a d'autres façons, mais c'est pas un vrai baiser d'amour. Donc du moins d'un amour réciproque entre les deux. Voilà, c'est autre chose, c'est un geste magique, bon, qu'il faut faire en effet parce que la sorcière a bien voulu que ça soit la seule façon de réveiller Blanche-Neige. Et bon, bien évidemment que cela a un sens à l'époque, bien évidemment. Donc bien sûr qu'on peut réécrire ce conte avec un autre geste qui pourrait fonctionner comme geste magique pour réveiller Blanche-Neige. Mais voilà, donc on est en droit, en effet, de poser la question du sens qu'on va donner à ce baiser. Est-ce qu'on va vraiment le mettre en avant aux enfants comme un vrai exemple d'un vrai baiser d'amour? C'est pertinent, c'est possible, de la même façon qu'on a le droit éventuellement de mettre avant un film Walt Disney, un petit avertissement qui dit attention. Donc on a des choses qui à l'époque étaient normales, mais qui en effet sont racistes dans ce dessin animé. Donc on va donner un sens aux choses, on va mettre des notes en bas de page, pas pour empêcher la lecture, mais pour mieux aider à comprendre la lecture des documents. Bah, c'est ça qu'on fait en effet en philologie. Voilà, la philologie, justement, on se moque de la philologie souvent parce que souvent on réduit la philologie au fait de mettre des notes en bas de page et de spécifier les choses, de mettre des warnings, etc. Donc en effet, tout ça relève de la philologie. Et après, on peut en effet, avec les outils de la philologie, discuter et voilà, des différences. Des différents sens qu'on a envie de donner et des appréciations qu'on a envie de donner, bien évidemment, avec de façon rigoureuse, ouverte, critique, etc., etc. Oh. Donc, là, Marc Bloch, dans Apologie pour l'histoire au métier d'historien, ça c'est un livre extraordinaire que tout étudiant en licence de lettres, normal ou en licence d'histoire, mais aussi en prépa littéraire en général, même qui envisagerait des études de lettres, normalement devrait lire. Marc Bloch y explique quels sont les outils pour le métier d'historien. Et bon, en effet, ce dont il est question là, c'est en effet, il est question de la méthode philologique. Or, la méthode philologique, elle est née à quel moment? En fait, la méthode philologique, c'est la véritable révolution scientifique des sciences humaines. Elle arrive à quel moment? Bah, je l'avais dit, on l'a dit dans la présentation de notre conférence. Bah, ça arrive à la grande époque de la révolution sceptique. Moderne, c'est-à-dire au XVIIe siècle, cette grande révolution sceptique qui amène aussi la révolution scientifique. Popkin, la référence bibliographique est dans la présentation à la conférence. Donc Popkin, dans son livre L'histoire du scepticisme et le volume très important d'Érasme à Spinoza, parle vraiment de ce moment historique très important où des savants, avec une attitude sceptique, ont remis en question tout un tas de dogmes. Tout un tas de dogmes méthodologiques, épistémologiques, philosophiques. Or, bien évidemment que tout le monde pense à Galilée. à cette époque-là. Ce qu'il faut, par contre, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que Galilée, ce qu'on ne sait pas toujours, donc je conseille la lecture de Coiré, Alexandre Coiré, historien qui a écrit des choses remarquables sur Galilée. Galilée, à la base, comme la plupart des hommes de son époque, une époque où on ne faisait pas une distinction stricte entre savants durs et savants des sciences dures et savants des sciences exactes, Galilée était un homme qui avait grandi avec une formation humaniste on ne peut plus complète. Et en effet, Galilée, donc les historiens des sciences le savent très bien, voilà, ça c'est Galilée quand dans l'Il Saggiatore, quand il doit vraiment justifier sa méthode, la nouveauté de sa méthode, la nouveauté vraiment philosophique de sa méthode, cette méthode galiléenne qui deviendra donc la méthode scientifique, il dit, il a défini comme une science de philologique, une science donc de la lecture et de la compréhension des textes, voire d'un texte. Quel texte? Le texte de la nature. Cette métaphore, elle est tellement utilisée, usée, etc., c'est une métaphore qui a l'air tellement facile qu'on s'y arrête plus dessus. Mais quand même, lui, il dit, la philosophie écrite dans cet immense livre qui continuellement reste ouvert devant les yeux, je dis l'univers. Mais on ne peut le comprendre si d'abord on ne s'exerce pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Et il est écrit dans une langue mathématique, et les caractères en sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est impossible humainement d'en saisir le moindre mot. Sans ces moyens, on risque de s'égarer dans un labyrinthe obscur. Donc, bien évidemment qu'on pourrait s'arrêter sur le fait, oui, il dit tout simplement qu'il faut appliquer les maths, que la science, c'est les maths. Non, il dit que les maths, c'est un langage. D'abord, que les maths sont un langage. Le langage, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de vivant, de riche, de complexe, etc. Donc c'est très lourd ce qu'il est en train de dire. Et qui écrivent un livre, donc c'est un objet humain assez précis. Et par ailleurs, Galilée n'est pas en train de dire il faut. La nouveauté n'est pas dans le fait de dire qu'il faut lire la nature comme un livre. Il est en train de dire que ce livre-là, il faut le lire d'une certaine manière, c'est-à-dire en respectant, en apprenant vraiment la langue dans laquelle ce livre est vraiment écrit. À quoi il fait référence? Quel est le gros débat de l'époque de Galilée à cette époque-là? Galilée, lui, il s'en prend à une certaine vision de la nature qui était sacralisée à son époque. Cette vision-là, c'était la vision qui était figée depuis l'époque des Grecs, c'était la vision d'Aristote, de Ptolémée, qui en effet était cohérente qui avait été rendue cohérente par les philosophes chrétiens, les théologiens, etc., avec la doctrine catholique. Mais c'est une sacralisation d'une certaine vision de l'univers qui, en effet, était laïque et qui, en effet, était celle des Grecs, plus ou moins, revue à la sauce chrétienne, bien évidemment. Donc, c'est un certain texte sacré de la nature que Galilée s'en prend. Il va désacraliser cette vision du livre de la nature en proposant de le lire de façon plus philologique, en respectant vraiment de façon presque matérielle, de façon objective, la façon dont ce livre est écrit. En effet, c'est un peu le problème qu'on a à la même époque que les savants des lettres ont à cette époque-là avec justement les textes. Et quel est le texte sacré par excellence? C'est la Bible. Or, on a du mal on a du mal à le concevoir, mais il faut dire qu'à cette époque-là, à cette époque-là, on n'avait presque pas le droit de traiter la Bible et les textes sacrés en général comme un texte comme les autres. On en faisait l'exégèse, on en tirait des enseignements, on en tirait une compréhension de la doctrine, etc., etc. Mais c'était un texte qu'on estimait vraiment comme étant impossible, comme un texte qui bouge pas, un texte qui de par sa nature divine n'a pas été construit, fait, etc., comme tous les autres textes humains. Notamment à l'époque de Spinoza, il y avait un gros débat chez les savants européens qui se chamaillaient entre catholiques et protestants sur comment traduire ce texte, la Bible. Parce qu'il fallait bien évidemment avoir la traduction en langue vulgaire, français, italien, etc., la plus vraie, entre guillemets, qui soit. Et du coup, il était question de comprendre aussi le texte de la façon la plus vraie. Or, il faut savoir que le texte, en fait, du coup, on traitait le texte latin comme si c'était le vrai texte. Il était sacralisé, ce texte latin, mais en vérité, le texte latin, c'était la traduction du texte grec. Qui à son tour avait une aura de texte vrai, encore plus vrai que le texte latin, et donc ce qui posait problème, parce que bien évidemment que les Saint Jérôme qui avait traduit le texte latin, parfois, voilà, on peut quand même critiquer les choix de Jérôme quand même. Voilà, c'est un traducteur humain tout de même s'il est inspiré par Dieu. Mais surtout la traduction en grec. En vérité, c'est une traduction notamment pour l'Ancien Testament, la Torah, le Pentateuque, etc. Il s'agit d'un texte qui, à l'origine, était écrit en hébreu, et pas qu'en hébreu d'ailleurs. Or, Spinoza, qui est un peu le Galilée des sciences de la Bible, lui, il va prôner une analyse critique de la Bible, vraiment lire la Bible comme n'importe quel livre. Donc, essayer de faire l'analyse linguistique, logique aussi, donc à tous les niveaux, donc de la compréhension à tous les niveaux de la Bible, mais en essayant d'en comprendre le sens, comme si c'était un livre comme un autre. À cette époque-là, il y avait les deux positions sur comment il fallait comprendre la Bible. Il y avait Maïmonide qui disait, bon, pour comprendre le texte biblique, il faut faire appel à la raison. Parce que comme la Bible est le texte vrai, il faut du coup, ça veut dire que la vraie interprétation doit être l'interprétation rationnelle. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des choses irrationnelles là-dedans. Position qui s'oppose à celle de Maïmonide, à celle d'Alpacar, qui dit, non, c'est un texte d'inspiration divine, donc il faut le comprendre en suivant la vraie doctrine. Donc, s'il y a un passage où on dit qu'il y a plusieurs dieux, nous on sait qu'il y a, on le sait parce qu'il y a des passages très importants qui disent qu'il y a un dieu, du coup, cet autre passage-là sont métaphoriques, mais c'est la doctrine. Donc, ce qui est vrai, mais d'un point de vue de la religion, qui doit primer. Donc, religion contre raison. Spinoza, il dit, mais non, 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 il faut comprendre le sens du texte par le texte. Et pas que le texte, par l'histoire, etc. Mais il faut d'abord comprendre le sens du texte. Et seulement après, on va apprécier éventuellement la vérité éventuelle de ce texte. Si le but de ce texte est de communiquer une vérité en plus. C'est super important ce que Spinoza dit, et il le dit dans son Il le dit dans le Tractatus Théologi, il est question du Tractatus Theologico-Politicus. Souvent, quand on songe à Spinoza, on songe à l'éthique, voilà, alors que c'est le grand chef-d'œuvre méthodologique de Spinoza, le Tractatus Theologico-Politicus. C'est dans le livre 7, où il parle de la méthodologie pour étudier la Bible. Il faut savoir qu'à l'époque de Spinoza, donc non seulement les chrétiens ils lisaient les textes sacrés à partir d'une sacralisation du texte latin qui était la traduction du texte grec, etc. Mais en plus, même si on savait qu'il y avait un texte en hébreu derrière, on était convaincu que le Pentateuque, donc les cinq premiers livres, avaient été écrits par Moïse. Voilà. Or, la démarche de Spinoza est. Dans Spinoza, il dit non. Alors, il dit voilà, il faut faire comme dans les sciences de la nature. Ce que l'observation et l'expérimentation sont à l'interprétation de la nature, la connaissance historique et philologique est à l'exégèse biblique. Voilà. Donc, l'enquête historique. Voilà, est fondamental pour comprendre. Donc, condition préalable, il faut connaître l'hébreu. Et ce n'est pas une mince affaire, parce qu'en plus, le texte grec qu'on a utilisé pour traduire, il est plein d'hébraïsmes. Et après, l'hébreu, et si on connaît l'hébreu, après, on voit que c'est en fait l'hébreu change d'un livre à l'autre. Donc lui, il prouve que c'est pas du tout un seul auteur qui a écrit ça. Ça peut pas être Moïse, parce qu'il y a de l'hébreu avec des styles différents, des tons différents, des époques différentes, etc., etc. C'est super compliqué. Et ensuite, et en plus, il faut utiliser la logique, c'est-à-dire il y a un problème de cohérence interne dans le texte. Voilà, donc on ne va pas indépendamment de la doctrine religieuse qu'on estime être vraie. Il faut quand même que ça soit. Donc il faut faire une lecture qui obéit à la nature même du texte. Et une fois qu'on a établi à l'intérieur du texte les concepts clés, etc., etc., bah là, après, une fois qu'on a compris quels sont les concepts que le texte dégage, bah après, on va descendre au détail. Et dans cette critique, il dit donc il faut faire une critique d'authenticité, il faut faire une critique de provenance, de crédibilité, parce que bah, il faut qu'on il faut qu'on parce qu'on a plusieurs manuscrits qui se sont copiés entre eux, etc. Donc il y a bon là je fais une petite je fais une petite liste de tout ce qu'il faut faire selon Spinoza, mais voilà, donc et là c'est bon, dans cette page-là on peut revenir après si vous voulez pour lire. Bah, il dit clairement qu'il faut bon il faut se rapporter à toutes les circonstances particulières dont le souvenir nous a été transmis, les circonstances particulières de la rédaction des livres de la Bible. Il faut essayer de comprendre la vie, les mœurs de l'auteur de chaque livre. Donc chaque livre a un ou des auteurs différents. Il faut essayer de comprendre le but qu'il se proposait. Le but parfois n'est pas forcément de doctrine. Parfois il y a d'autres buts. Chaque texte né dans un but différent. Chaque texte est différent dans ce sens-là. Chaque texte a été transmis dans des livres, des manuscrits qui ont eu des fortunes propres. Ils ont été recopiés, traduits, adaptés, etc. Etc., etc. Donc il faut, bon, il détaille tout ça. En plus et surtout, il faut se résigner à une connaissance limitée. Donc il faut savoir qu'on ne va jamais avoir, entre guillemets, la compréhension exacte, précise, parce que l'hébreu du texte est ambigu, obscur. Spinoza parle hébreu, mais l'hébreu de Spinoza, qui est un juif du XVIIe siècle, n'est pas du tout l'hébreu de la Torah. En plus, l'accentuation, la vocalisation, tout ça a été refait des siècles après par des philologues juifs, justement. Nous ne connaissons pas les circonstances historiques, nous ne savons pas qui sont les auteurs des livres de la Bible, nous ne connaissons pas leurs intentions, on peut essayer de les connaître. Certains livres, en plus, ce sont sont la traduction des originaux, etc., etc., etc. Waouh! Or, c'est pas, alors, cette bombe que Spinoza a fait, bah, c'est une véritable bombe, bah, comme celle de Galilée, si l'on veut. Bah, ça déclenche la désacralisation de la lecture de tous les classiques, de tous les livres, parce qu'en effet, ça ne concerne pas que la Bible. En fait, au Moyen Âge, à l'âge chrétien, bah, on interprète tous les livres à la lumière de la doctrine chrétienne. Donc là, on va tout lire, tous les classiques, les Homères, etc., on va les lire en tant que tels, en respectant leur sens. Pas en essayant de leur donner un sens moral chrétien, etc., 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 en les censurant en fonction de ça. Mais bien évidemment que la Bible, le fait de le faire sur la Bible, bah, ça a des conséquences explosives. Et on le voit à l'époque, les théologiens le voient. C'est pas par hasard que Spinoza va être très très vite considéré par les juifs et par les chrétiens comme le parangon de tout athée scélérat, sans Dieu et dans l'Église. Vont faire un peu la même chose que Spinoza, vont faire donc, vont appliquer cette méthode philologique au vieux et au Nouveau Testament, mais d'un point de vue chrétien. Donc, notamment Richard Simon, qui est considéré par Marc Bloch, que j'ai cité tout à l'heure, comme le père de la méthode philologique, bon, un des pères, bien évidemment. Donc, Richard Simon, qui est lui aussi homme d'Église, ben Richard Simon, il écrit cette histoire critique du Vieux Testament où il dit tout simplement, écoutez, vous, les protestants et les catholiques, vous êtes en train de vous entretuer sur comment, voilà, sur les critères qu'on devrait suivre pour traduire les Écritures. Bon, on a les jansénistes, la logique les jansénistes de Port-Royal qui ont une idée, les protestants une autre, les catholiques une autre. Bah, Richard Simon, il va dire, bah, écoutez, vous êtes gentil, mais on ne peut pas traduire, vous traduisez en français, en anglais, etc., le texte latin, mais vous connaissez, il faut bien connaître le grec, mais bien connaître le grec, mais il faut bien connaître l'hébreu, il faut bien connaître les langues orientales, parce qu'en plus, ces textes-là ont été écrits aussi en araméen, etc., etc., mais il faut connaître aussi, faut savoir quels sont les différents manuscrits, l'histoire des manuscrits, parce que bon, Saint Jérôme qui a traduit en latin, on peut aussi critiquer les choix qu'il a fait. Les pères qui ont traduit en grec l'hébreu, ils se sont trompés aussi. Et c'est où on peut-être qu'ils ont été, parfois ils ont utilisé les mauvais manuscrits. Et on a découvert de nouveaux manuscrits et tout et tout. Donc il fait cette histoire critique. Et bon, l'opération est assez futée, c'est-à-dire il va quand même publier le texte accepté par l'Église catholique à l'époque, mais en mettant en note en bas de page les variantes qui viennent des autres manuscrits. Or, cela, bien évidemment, bon, Bossuet lui tombe dessus en disant, oh là là, mais si vous donnez les autres variantes, les fidèles, ils vont croire quoi? Ils vont donc se dire, oh là là, mais la parole de Dieu n'est pas unique, il y a d'autres interprétations possibles, etc., etc. Bon, le livre de Richard Simon est brûlé au bûcher, six exemplaires sont sauvés, heureusement. L'abbé Lapeyrère, lui aussi, va aussi faire cette analyse critique, sceptique de la Bible, pas philologue, pas au sens des sources, mais là, c'est plutôt au sens de la logique interne du texte. Bah, et notamment, il va développer sa célèbre théorie des préadamites. Bah, il va tout simplement dire, à partir de la Bible, bah, si on lit le récit de la Genèse, bah, force est d'accepter qu'il y avait d'autres hommes avant Adam et Ève. Bon, cette théorie, il a été discutée. Bon, et après, donc, ça déclenche toute une discussion. Pour nous, le pré-adamitisme est absolument évident d'un point de vue scientifique. Mais à l'époque, c'était vraiment explosif. Et surtout, bon, on a censuré Simon et Pereire. Spinoza s'est trouvé excommunié par la communauté juive, mis à l'index par les chrétiens, donc, etc., etc. Mais il se trouve que, comme dans le cas de Galilée, c'est les philologues qui gagnent. L'Église catholique sera obligée, à partir du XVIIe siècle, d'accepter des éditions critiques scientifiques de la Bible. On ne pourra plus, et bien évidemment, les théologiens devront trouver des manières plus subtiles de justifier les points de doctrine qui sont plus justifiables à partir du texte, lorsque le texte n'est plus considéré comme étant fiable. Et ou sinon, c'est même là, d'ailleurs, il y aura des changements de la doctrine aussi, d'ailleurs. Bah, c'est la même chose qui est arrivée avec la science moderne. Donc, l'Église catholique, à un moment donné, a dû faire avec l'approche critique scientifique des sciences de la nature. Donc, la vision de la nature de l'Église catholique a forcément changé, tout avec un train de retard, bien évidemment, par rapport aux découvertes des scientifiques, bien sûr. Or, donc, à partir de là, naissent la philologie, donc comme science des sources, science des documents, voilà, c'est tout ce qu'on a dit, et de la transmission de ces documents, parce que les documents sont transmis, les documents traversent l'histoire. Les documents sont copiés, etc., sont produits. Mais on a aussi la naissance de sciences à l'intérieur de la philologie. On a l'étude donc de choses matérielles comme les papyrus. On va des choses plus particulières comme l'étude des documents officiels, la diplomatique, qui va être très importante pour les historiens. Donc on va parce que les attestations, les actes officiels d'une certaine époque, les actes de naissance, les actes de baptême, les actes de vente, etc., etc., sont les actes produits à une certaine époque par le pouvoir, bah, vont être utilisés par l'historien pour vérifier ou pour réfuter ce que les chroniqueurs disent. C'est très intéressant parce que ce n'est pas des documents qui racontent les histoires. Au contraire, parfois, les actes officiels qui racontent pas l'histoire de Napoléon ou d'Henri IV, etc. Par contre, vont être utilisés pour conforter, réfuter, etc. les sources qui racontent les histoires. Et même, voilà, et on a cette figure qui est la figure de l'antiquaire qui s'oppose à l'historien, parce que l'historien étudie l'histoire dans sa chronologie, il étudie les événements, les grands événements historiques, du moins jusqu'au XXe siècle. Après le XXe siècle, l'historien s'intéressera aussi à la micro-histoire, les petits trucs. Bah, l'antiquaire, lui, au contraire, et là nous avons Montfaucon, qui est le père de tous les antiquaires, là nous avons aussi Mabillon, qui est le père de la diplomatique. Mabillon, qui dans le buste et à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, Montfaucon, qui était son collègue, les deux étaient des moines morins. Donc c'est toujours à l'intérieur de l'Église. Attention, c'est toujours à l'intérieur de l'Église catholique quand même qu'on fait cette révolution. Richard Simon aussi et Pereire étaient des hommes d'Église. Hein. Et hop là, ça c'est bon, voilà. Donc le livre de Montfaucon, il est tout comme ça. C'est-à-dire, nous avons des médailles, nous avons des objets. En fait, l'antiquaire, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est vieux, pourvu que ça soit vieux, et il va classer ça par les époques. Donc, ça va nous per... Donc, à une certaine époque, on fait des monnaies comme ça, on fait des pots comme ça, on fait des boucles comme ça. Enfin, en fait, des choses qui n'ont pas forcément d'importance pour l'historien en soi, qui sont des curiosités, mais qui vont à l'historien près. À l'historien qui est très scientifique. Mais l'historien à la Marc Bloch, au contraire, connaît l'importance de ces choses-là. Parce que là, comme l'archéologue les connaît, parce que ce sont ces objets-là qui ne sont pas des documents, parce qu'ils n'ont pas de langage à l'intérieur, mais qui parlent par leur nature matérielle, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils montrent, ces objets, donc la forme, etc. Parce qu'à chaque époque, on a des objets différents. Ben, c'est comme ça qu'on peut vérifier l'authenticité ou dater d'autres documents. Ça rentre dans les outils de la scientifique de l'historien, même si c'était complètement et c'était alors que c'était complètement méprisé par les historiens avant le XVIIe siècle. Parce que c'était des trucs de collectionneurs, aujourd'hui on dirait de geeks, si l'on veut. Quel intérêt de s'intéresser aux petites monnaies et tout et tout. Or, revenons à la philologie. Hop là, alors là, vous avez, voilà, tac, tac, tac. Or, il fait que, comment on fait, ça veut dire quoi être philologue? Ça veut dire faire, bah, notamment un philologue, prenons l'exemple d'un texte, imaginons un texte littéraire, la Divine Comédie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire un philologue? Et après, un historien va travailler, va faire lui aussi ça, mais il va le faire à un niveau encore plus de complexité, encore plus important. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le philologue? Un philologue. Bah, il veut publier donc le texte de la Divine Comédie. Bah, en fait, il y a plusieurs manuscrits de la Divine Comédie. Il y a plusieurs manuscrits, plusieurs textes imprimés de la Divine Comédie. On a plusieurs témoins, ce qu'on appelle les témoins. On a plusieurs sources, on a plusieurs témoins sur la Divine. Très souvent, elles sont toutes différentes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Bah, d'abord rechercher tous les manuscrits, les textes imprimés ayant transmis l'œuvre à éditer. C'est ce qu'on appelle la tradition. On va évaluer ces manuscrits. On va voir les manuscrits qui sont partiels, complets, distinguer la tradition directe, indirecte. On va annoter les variantes, ce qui change, les variantes graphiques, formelles, substantielles, etc. Ensuite, on va comparer. On va comparer avec ce qu'on a à l'intérieur de ces manuscrits, c'est-à-dire les mots, c'est-à-dire les données, parce que les données sont différentes. Parfois, les données, on a les mêmes, c'est ce qu'on appelle les loci. Et on va repérer ce qui change, c'est-à-dire les variantes textuelles, les erreurs. Et du coup, c'est génial, parce que quand deux manuscrits ont la même erreur, bah, ça veut dire, une erreur qui n'est pas banale, bah, ça veut dire qu'ils ont été copiés par le même manuscrit. Par contre, parfois, s'ils ont deux erreurs différentes, donc une erreur disjonctive, alors qu'ils ont aussi une erreur conjonctive, bah, ça veut dire qu'ils n'ont pas un rapport de filiation père-fils l'un l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont les enfants du même, ils ont été copiés à partir d'un même manuscrit. Et donc, on va déterminer les rapports de filiation entre les témoins. Quel manuscrit a été copié à partir de quel autre manuscrit? On va les regrouper en divisant toute la tradition en familles. Voilà. On va faire cet arbre généalogique des manuscrits, ce qu'on appelle le stemma codicum, et on va éliminer les manuscrits inutiles, parce que, qui ne donnent pas de nouvelles informations par rapport aux autres. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ce genre d'arbre. Ça, c'est plusieurs arbres de la Divine Comédie, par exemple. Voilà. Là aussi, voilà, nous avons des exemples de stemmata codicum. Mais ce n'est pas fini, parce une fois qu'on a fait cet arbre des manuscrits, à partir de là, on va établir le texte. C'est-à-dire, on va établir le texte le plus probable. On établit le texte critique. Donc, pour chaque endroit du texte, bah on va suivre plusieurs techniques linguistiques ou matérielles, grâce à la papyrologie, grâce à la connaissance que nous avons des différentes écritures dans les différentes époques, et on va choisir les lectiones difficiliores, etc. Ou sinon, si on ne sait pas, bah on fait voter Oh là là, on a trois familles de manuscrits. Il y a deux familles qui sont d'accord sur une variante contre une. Bon, on va dire deux contre un, c'est les deux familles qui gagnent, entre guillemets. On fait voter les familles les unes contre les autres. Et si on n'a rien, on formule des hypothèses pour que d'autres philologues après puissent, peut-être en découvrant d'autres manuscrits, etc., pour qu'on puisse trancher après. Et après, ce texte, on va l'établir selon les critères paratextuels modernes, ponctuation, division paragraphe, etc. Éventuellement, on va le traduire aussi. Et à la fin, on établit l'édition critique, c'est-à-dire un autre texte qui, en effet, est un document lui aussi, mais qui est vraiment spécial, parce qu'il va, c'est un métatexte, parce qu'il va avoir les variantes, on va indiquer les variantes refusées dans les notes en bas de page, on va indiquer quels sont les matériaux. On va, dans une introduction, on va présenter, discuter les manuscrits, les autres éditions critiques qu'on a faites avant moi, avant nous qui faisons cette édition. On va analyser les aspects linguistiques, les commentaires, on va discuter les résultats, on va faire des glossaires, des index, patati, patata, patata, patati. Donc, en effet, vous l'avez remarqué, je vous l'ai mis à gauche, c'est vraiment le schéma qui d'ailleurs est utilisé aussi par l'historien, mais avec une complexité encore plus importante, parce que l'historien, en fait, la tradition dite indirecte, c'est-à-dire les manuscrits qui parlent indirectement du texte qui m'intéresse, dans le cas de la Divine Comédie, je prends aussi les œuvres littéraires qui citent la Divine Comédie avec des personnages avec des personnages qui récitent la Divine Comédie. Ça aussi, c'est des témoins. L'historien, par exemple, qui veut comprendre ce qui s'est passé au moment de la bataille de Waterloo, il a un travail encore plus complexe, parce que tous les témoins qui parlent de la bataille de Waterloo, ils en parlent avec des récits différents. Donc on a des récits différents, on a des histoires différentes, etc. Beaucoup plus complexe que la Divine Comédie, dont les manuscrits prétendent quand même raconter que la Divine Comédie. Or, cela devient très très complexe, mais c'est quand même là l'approche philologique de l'édition critique, qui est une véritable méta-édition, et on retrouve vraiment ce qu'on va faire en science, notamment quand on fait une méta-analyse. Donc on va identifier le problème, bien sûr, et on va rechercher tous les thèmes, toutes les sources, voilà, toutes les études qui ont été faites sur le sujet. On va cribler, on va les sélectionner, on va extraire les données, on va évaluer la qualité des études, exactement comme on a évalué et pesé la qualité des manuscrits. On va combiner les données et on va discuter, on va en sortir, entre guillemets, une méta-étude qui va, grosso modo, essayer de se rapprocher de la façon la plus probable de l'état le plus vrai du texte, du phénomène naturel. Là, j'utilise la métaphore de Galilée en question. Voilà, donc à gauche, vous avez, voilà, ça c'est une méta-analyse avec les différentes études. Là, nous avons une liste, c'est très petit, mince. Là, nous avons une liste des différents manuscrits d'une édition critique. Là, nous avons les stemmata codicum. Donc, hop là, hop là, hop là. Hop, ici, nous avons, voilà, d'autres stemmata codicum. Ici, nous avons les petits trucs de Monfaucon. Or, cette histoire est très très longue, mais en passant, alors c'est ça qui est très très intéressant. La philologie devient, surtout en Italie, la base de la méthode sceptique. Parce qu'on a vraiment cette vision du philologue comme celui qui va vraiment dénicher la vérité et faire le tri entre le vrai et le faux. Notamment, la chose la plus spectaculaire qu'un philologue fait souvent et qu'on retient, c'est le fait de prouver qu'un certain manuscrit est faux. Et notamment, c'est toujours par la philologie appliquée aux œuvres d'art, qu'on a établi, notamment récemment, que le Salvator Mundi, qui a été vendu pour une somme insensée, prétendument fait par Léonard, en vérité n'était pas un Léonard. Il y a tout un tas de polémiques sur est-ce que sur un crucifix en bois de Michel-Ange, est-ce que Michel-Ange l'a fait ou pas? Il y a beaucoup de faux documents qui ont été produits contre les ennemis politiques, etc., etc. Notamment pendant l'affaire Dreyfus, il y a eu toute une querelle philologique, notamment sur le célèbre billet, est-ce qu'il avait été par et lui avait qui a témoigné dans le procès en question. C'était un grand philologue français de l'époque. Or, et d'ailleurs, la critique scientifique la plus pertinente contre Sigmund Freud aujourd'hui, c'est la critique d'un philologue italien, Timpanaro, que les psychanalystes connaissent très bien parce que c'est une critique vraiment. Et d'ailleurs, les français qui connaissent pas trop la philologie, ils ont intérêt à se pencher sur la critique que Timpanaro formule à l'égard de la méthodologie de Freud. Critique philologique, linguistique, vraiment sur la méthode de Freud. On parle pas du fait que ça guérit ou pas, on parle même pas de ça. Ça marche pas, ça peut pas marcher, pour des raisons philologiques. C'est très intéressant. En France, non. Justement, il y a un clivage entre l'Italie et la France. Et justement, quand on dit être philologue, en France et en Italie, on ne dit pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on ne veut pas dire la même chose. En Italie, un philologue, c'est un rat de manuscrit. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à comprendre à partir d'un manuscrit, à faire surgir du manuscrit le vrai sens du manuscrit. Un peu comme l'abbé Faria du Comte de Monte-Cristo. Qui, à partir le petit manuscrit déchiré, brûlé, partiel, avec l'indication pour le trésor de Monte-Cristo, l'abbé Faria arrive à reconstruire les indications. D'ailleurs, Dumas, il ne dit pas s'il le fait en devinant grâce à la linguistique, en devinant grâce aux écritures, l'abbé Faria est un philologue à part entière. Probablement, il le fait en utilisant tout ça. Donc, encore à l'époque de Dumas, un philologue, il a affaire au manuscrit. À la fin du 19e siècle, il y a un clivage entre l'Italie et la France. Dans le monde de la philologie, il y a un schisme méthodologique. Les philologues français, les philologues italiens se fâchent. C'est pas une histoire qu'on pourra raconter aujourd'hui. Et du coup, il se trouve qu'aujourd'hui, quand on parle de philologie en France, on a plutôt l'idée de quelqu'un qui aime les mots, quelqu'un qui est justement linguiste. Alors qu'en Italie, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait même ignorer la langue du manuscrit, mais qui seulement par la connaissance historique et par la logique et la rigueur, peut reconstruire le vrai manuscrit d'origine. Hop là, hop là, hop là, je vais très 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 vite. Or, voilà. J'arrive à la fin. Alors, qu'est-ce qui J'ai les deux dernières diapos où justement il est question de la logique et de la linguistique. Donc je vais ouvrir là-dessus parce que ça mériterait, en fait, chacune de ces deux diapos mériterait une conférence à part, si l'on veut. Mais en effet, voilà, nous l'avons vu, le texte sacré de la Bible a été écrit en hébreu. Spinoza, il ne s'est pas contenté de dire il faut apprendre l'hébreu. Du coup, hop, on connaît l'hébreu et on va le lire. En fait, c'est le début des problèmes de la complexité. À partir de là, en vérité, on va désacraliser l'hébreu, on va comprendre que l'hébreu est une langue qui a une histoire. L'hébreu de la Bible, il a changé parce que l'histoire des livres de la Bible est très complexe, etc., etc. Donc, en effet, c'est le point de départ de l'enquête philologique. Or, quand Galilée dit qu'il faut lire le livre de l'univers, non pas avec le livre le calque sacré, la traduction d'Aristote ou la traduction de Ptolémée, etc., mais il faut revenir aux mathématiques, eh ben, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il faut bien traduire en mathématiques ce que le réel nous dit. Donc on va traduire les choses aussi en mathématiques. Les théorèmes deviennent des choses et les choses deviennent des théorèmes. On va créer des instruments. On va faire parler les instruments entre eux par des mesures notamment. Voilà. Donc on va toujours le faire par le biais de ce langage de la nature. Or, en effet, les mathématiques, à leur tour, sont un langage complexe, qui peut être géométrique, qui peut être algébrique. Donc, on a plusieurs manières de voir le même résultat. Et en effet, au XXe siècle, enfin, les mathématiciens, ils se penchent non plus sur la vérité des énoncés mathématiques, un peu comme la vérité de la Bible, si l'on veut, mais on commence à se pencher sur la façon dont on prouve en mathématiques. En fait, ça va devenir pertinent d'un point de vue mathématique. On va s'interroger sur le même théorème de Pythagore, il peut être prouvé de 1000 façons différentes. Certaines sont équivalentes, d'autres pas. Il y a des preuves qui vraiment ont un sens différent. Chaque preuve exprime une différente manière de comprendre le théorème en question, qui se réduit pas à l'énoncé. On a deux carrés, les deux carrés construits sur les deux côtés du triangle rectangle, etc., sont égaux au carré construit sur l'hypoténuse. Ah non. Et les différentes preuves ont un sens différent, mais en plus, elles agissent différemment. C'est-à-dire, une preuve, on peut l'appliquer différemment, et on l'applique selon la façon dont on a démontré le théorème en question. Ça, c'est la grande révolution des années 60 qui arrive en mathématiques, en informatique. On comprend qu'en vérité, les preuves mathématiques sont des programmes qui expriment des algorithmes. C'est très intéressant parce que des algorithmes et des programmes, parfois, c'est pas complet, parfois c'est bancal, parfois c'est imparfait, parfois ça a des bugs. Mais ça fait quelque chose, du coup ça prouve quelque chose. Donc même des preuves, entre guillemets, partielles, ont un statut, peuvent avoir un sens mathématique, ce qui est super intéressant. Parce que jusque-là, en mathématiques, on n'avait que les vraies preuves, vraies, qu'on ne peut pas réfuter, etc., qui avaient un vrai statut de cité dans la cité mathématique. Cette théorie des programmes, qui est la théorie des preuves, ce n'est que la théorie, c'est l'informatique, c'est la théorie des informations transmises par ces programmes. C'est la théorie de la transmission des informations. C'est une des définitions de la philologie, ça c'est super important. Et d'ailleurs, nous agissons nous communiquons avec l'ordinateur. En communiquant avec au dernier degré avec son niveau matériel, le niveau vraiment des 0 et des 1 qui se transforme en impulsion électrique, électronique, etc., etc. Donc, ce qui va permettre d'ailleurs par les ordinateurs d'agir sur le monde, de transformer ces programmes, donc ces preuves, ces démonstrations, on va les transformer en quelque chose qui agit concrètement. Ça va commander des machines. Or, la même révolution arrive en linguistique, en effet. Donc, alors qu'on s'inquiétait jusqu'à Saussure, en effet, on s'inquiétait, on avait une vision grammaticale de la langue, donc avec des règles considéré correct parce qu'obéissant à une certaine doctrine logique, et notamment la logique et la grammaire de Port-Royal, toujours eux, est un très bel exemple, ben, on passe de cette idée-là et l'idée que donc faire de la linguistique veut dire apprendre à bien parler ou le bon usage de la langue, donc parler de façon vraie et correcte, bah, tout d'un coup, on se dit, bah non, en fait, ce n'est pas la langue en tant que langue sacrée qui se trouve dans un univers de Platon, de la langue parfaite qui nous intéresse, c'est les énoncés de la langue, les énoncés qui sont dans les vrais discours, qui sont dans les vrais, qui sont donnés par des documents, mais aussi par l'oralité. Mais aujourd'hui, l'oralité devient aussi des documents, bien évidemment, parce qu'on peut enregistrer, on peut justement la culture orale devient objet linguistique, où on peut même chatter, on peut écrire tout ça dans les réseaux sociaux. C'est de l'oralité écrite. Du coup, le sens, c'est du sens qu'on va s'inquiéter, pas de la vérité de ce qu'on dit. On peut apprécier la vérité, on va apprécier la vérité, oui, mais après avoir compris le sens. Et ce sens est complexe et stratifié. On ne communique pas seulement une description de la vérité. On communique beaucoup de choses quand on parle. On présuppose des choses, on sous-entend des choses. Surtout, on fait beaucoup de choses quand on parle. Dans et par le langage, on agit en plus de communiquer. Communiquer est une des choses qu'on fait quand on parle. Peut-être même que communiquer est parmi les choses qu'on fait la moins intéressante et les moins pertinentes. Parce que quand je dis cet hôtel n'est pas cher, d'accord, je communique quelque chose sur le prix de cet hôtel, mais je suis en train de le conseiller, cet hôtel. Je fais un acte, l'acte de conseiller. Je peux faire l'acte de critiquer, je peux faire l'acte d'accuser, je peux faire l'acte d'insulter, je peux faire énormément d'actes appelés les actes de langage. Ben, c'est ceux qui sont traités par la science de la pragmatique linguistique, qui rentre dans la science beaucoup plus générale de la théorie des énoncés, la théorie de l'énonciation. Là, on a le gros bonhomme que personnellement, voilà, j'aime beaucoup, qui est Émile Benveniste. Et d'ailleurs, sa notion d'énoncé, donc ceux qui s'intéressent un peu aux sciences humaines parmi vous, voilà, donc si vous lisez Foucault, l'archéologie du savoir, etc., donc l'énoncé, l'unicité des énoncés, etc., Foucault prend ça d'Émile Benveniste, Deleuze, Bourdieu, Lacan. Judith Butler, non, pour la théorie du genre, etc. Sachant que tous ces gens-là ont des théories très différentes, ils sont pas, c'est pas des linguistes, mais ils prennent la notion d'énoncé d'Émile Benveniste, qui, d'une certaine façon, qui était un grand philologue, il était vraiment philologue, hein, et il donnait, et qui a donné naissance à la théorie linguistique de l'énonciation. Qu'on peut voir, du moins, c'est de mon point de vue, comme une approche philologique à l'analyse des discours oraux en général. Bon, je vous mets deux noms, Ducrot et surtout Cerchiglini, dont je vous conseille tous les livres, parce qu'il parle justement de. Et notamment Cerchiglini, qui notamment a beaucoup travaillé sur l'orthographe et qui prône son dernier livre, La ministre est enceinte. Est enceinte, enceinte, justement, c'est, voilà, avec un jeu paratextuel sur le titre, c'est un livre où Cerchiglini, en philologue, prône la féminisation des noms de métiers et une plus grande inclusivité de l'orthographe du français en tant qu'historien et philologue de l'orthographe et de la langue. Cerchiglini, qui est un très grand ami et élève de Foucault et qui est un philologue, figure de proue de la philologie dite génétique dont on n'a pas parlé, mais bon. Voilà, donc c'est très intéressant d'ailleurs parce que Cerchiglini, lui, il ne prône pas le point médian, par exemple. C'est un peu un ringard, hein, c'est un vrai linguiste. Voilà, mais tout ce qu'il dit en vérité est. Et d'ailleurs, je suis assez étonné de ne jamais le voir cité dans tous les débats sur la rationalisation de l'orthographe. Voilà, qui est le grand débat dans lequel on va situer le débat sur l'écriture inclusive. Et qui donc est un débat éminemment philologique et qui a éminemment besoin de ces outils linguistiques, philologiques, historiques, etc., que les sciences humaines utilisent, ont à disposition pour traiter ça, et que les sciences comme la sociologie, l'anthropologie et l'histoire, hein, on l'a dit tout à l'heure, utilisent comme outils fondamentaux. Voilà, je m'arrête là. C'était très dense, je demande pardon, c'était très trop rapide forcément. J'espère que bon, j'espère que c'était pas trop rapide et trop hâtif. Voilà.
Merci à toi, Antonio. Mais donc, on va pouvoir passer dans quelques instants aux questions-réponses. Donc, je disais, oui, on aura Gabriel Pagares qui viendra début juillet, normalement. La date n'est pas encore fixée, mais il viendra aussi parler d'argumentation sur les questions sociologiques, notamment. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, du coup. Oui, Gaël, si tu veux discuter avec lui, le contacter plus tard, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. On peut le trouver sur Facebook. Si
D'accord.
jamais tu as d'autres choses à lui demander, je pense qu'il se fera un plaisir de te répondre. Merci, Boris. Ok.
Par ailleurs, je ne sais pas si ça peut aider. En fait, j'ai un petit exemple. Là, tout à l'heure, en parlant des éditions critiques, j'ai fait cette analogie entre les éditions critiques et les méta-analyses. Il y a un autre exemple qui est vraiment à mi-chemin, mais que je trouve très intéressant. C'est notamment quand on doit écrire un manuel, par exemple, de mathématiques. Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait l'auteur du manuel de mathématiques? Donc, même s'il sait, pour montrer à quel point ce genre de démarche peut être pertinente même en maths, alors qu'en maths, on va estimer souvent qu'on a des énoncés qui sont vrais, donc il n'y a pas de philologie à faire. En effet, dans les manuels d'algèbre, de géométrie, etc., l'auteur a un tri à faire il doit choisir les théorèmes. Donc il y a des théorèmes plus ou moins fondamentaux à mettre en avant. Il doit choisir quelle est la filiation logique entre les différents résultats. Et après, quand il a choisi un théorème, il doit choisir la démonstration. Parce qu'il va avoir plusieurs démonstrations. Il va choisir la démonstration qu'il trouve, lui, plus intéressante, à la lumière aussi de ce qu'il veut prouver après, ou de sa vision, entre guillemets, de l'auteur du manuel, de la façon la plus claire d'expliquer la chose en question. Et du coup, à l'appareil critique, parce que j'ai dit tout à l'heure que dans une édition critique, littéraire, et dans une méta-analyse d'ailleurs, donc on va quand même faire l'état des lieux de tous les manuscrits, de toutes les sources, de toutes les études. Dans un manuel scolaire, où est-ce qu'on va foutre les autres démonstrations qu'on n'a pas mis en avant dans le texte du manuel, on va les mettre notamment dans les exercices. L'exercice, notamment je parle surtout de la partie exercice en fin de chapitre des manuels de maths universitaires. Et en vérité, le but n'est pas de faire des exercices comme on le ferait au collège, etc. Le vrai but est de donner à l'étudiant de maths, qui est un vrai chercheur en vérité, d'autres versions alternatives de ce théorème, qui peuvent d'ailleurs être intéressantes si on traite ce résultat dans une autre branche mathématique. Voilà, parce que notamment, on a souvent le même résultat qui peut être utilisé dans plusieurs branches mathématiques ou en traduisant de façon formelle, de façon, géométriquement, algébriquement, voilà, de façon différente. Donc, un manuel peut être vu, moi je pense qu'il faut le voir comme une édition critique. Et d'ailleurs, bon, il y a des manuels en mathématiques, toujours comme Bourbaki, etc., qui ont vraiment établi comme des vrais textes sacrés presque ce que les mathématiques doivent être à une certaine époque. Et justement, c'est pour ça que faire un nouveau manuel est toujours un acte critique aussi. Parfois, c'est un acte révolutionnaire, etc., etc. C'est pour ça qu'on aime aussi lire les manuels. En science, parce que ça permet de voir les choses différemment, etc., etc. Voilà, bon, pardon. Donc, je
Ok.
ferme aussi cette parenthèse.
Ok. Bien, merci à toi. Je pense que comme il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer là-dessus. Je pense qu'on a fait un bon, une bonne, Bonne conférence, quoi.
Ah, c'était dense, hein.
Et oui,
Moi,
c'était dense.
je suis
Oui,
lessivé.
je pense que le public aussi est lessivé. C'est vrai que c'était assez intense. Ben voilà, je te remercie en tout cas beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et donc on diffusera, enfin automatiquement la conférence va être mise sur YouTube, hein, on pourra la diffuser pour ceux qui n'étaient pas là, qui souhaiteraient l'écouter par la suite, en tout cas. Voilà, ben donc merci à toi encore et je te dis à une prochaine fois alors.
Merci Jérémy. Et bonne
Au
nuit à tout le
plaisir.
monde. Salut, au revoir.